La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Et on célèbre Hanami, la fameuse fête des cerisiers en fleurs du printemps au parc de Sceaux du 5 au 21 avril 2025, avec une exposition en prime, au château dès le 29 mars. À cette occasion, le domaine départemental de Sceaux promet un programme riche en animation pour toute la famille. Et ce week-end du 19 et 20 avril, les arbres sont en pleine floraison et les animations de la partie. Un bon plan pour s'immerger au cœur de cette célébration japonaise. On va pouvoir pique-niquer sous les cerisiers et profiter d'une exposition en plein air sur l'histoire et les tradition du Hanami au Japon. Pour une expérience plus plaisible, il est conseillé de venir en semaine afin de se promener dans une atmosphère zen. Le parc est accessible de 7h à 20h30 avec une entrée libre. Les 19 et 20 avril seront rythmés par diverses animations sous l'ogarith dôme de la plaine de Châtenay. On retrouvera l'arbre à vœux où chacun pourra suspendre ses souhaits ainsi que des ateliers de haïku pour s'initier à la poésie japonaise. Des contes japonais vous transporteront dans l'imaginaire nippon tandis que les concerts de tambour taiko vibreront au son des répercussions traditionnelles. Les enfants pourront également participer à des ateliers ludiques sur la culture japonaise. Des ateliers d'origami et de calligraphie japonaise seront proposés également. Du 5 avril 2025 au 21 avril 2025, c'est au parc départemental de Sceaux, 38 avenue Alphonse Cherrier, à Sceaux donc. Et pour plus d'informations, c'est domaine de Sceaux, hautdeseine.fr. Au sommaire de cette matinale, nous recevons Laura de Nightlight qui nous parlera de la santé mentale des étudiants. Antoine nous présentera le Flash Info. Kairos Bloom nous présentera son dernier single, Stilzer Gallica. Nous aurons une chronique de Nordine et nous terminerons par les sorties culturelles de la semaine.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et nous recevons Laura qui est en service civique chez Nightline. Elle sera interviewée par Lila. Bonjour Laura.
Bonjour.
Bonjour Lila.
Bonsoir à tous. Bonsoir Laura. Bonsoir Fabien.
Et je te laisse la parole.
Ce mois d'avril 2025 a été désigné comme mois de la santé mentale. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de santé mentale? De quoi s'agit-il?
Ce qui est important de comprendre quand on parle de santé mentale, c'est que déjà ça touche tout le monde. La santé mentale, on peut définir ça comme un état de bien-être qui va toucher plusieurs sphères de notre vie, à chaque moment de notre vie, qu'on soit jeune, adulte, enfant ou plus vieux, et que c'est vraiment important d'en prendre soin. Donc ça, c'est un message qu'on essaye de faire passer, et qu'il y a énormément de ressources en santé mentale, c'est un sujet très très vaste, avec beaucoup de domaines différents, et voilà.
Ok, et pourquoi avoir consacré un mois en particulier à cette question et aux enjeux de la santé mentale, selon vous ?
Alors, cette année, c'est une des causes principales du ministère. Ils ont décidé de déployer plusieurs dispositifs à mettre en place pour les jeunes, la santé mentale. Et la mairie de Paris a voulu dédier ce mois d'avril pour mettre en avant cette thématique qui est on va dire d'actualité et qui touche tout le monde. Donc pour essayer de mettre de nouvelles choses en place et de sensibiliser un maximum de personnes à ce sujet. Et pour ça, ils ont essayé de déployer plusieurs activités dans tout Paris, notamment des expositions, des ateliers, et beaucoup de choses en rapport avec la santé mentale pour sensibiliser un maximum de personnes.
Et l'association que vous représentez, elle se focalise particulièrement sur les enjeux de santé mentale chez les jeunes. Alors pourquoi avoir choisi de viser spécifiquement un tel public ?
Alors, chez Nightline, on cible majoritairement les étudiants et les jeunes adultes parce qu'on sait que c'est une population à risque. La plupart des troubles ressortent à partir de l'adolescence jusqu'à 20 ans. On sait aussi que c'est une population qui est ciblée par de nombreux événements assez importants dans la vie, beaucoup de changements, beaucoup de décisions à prendre. Donc ça va être des super années comme des années compliquées. Et donc on essaye vraiment de cibler cette population pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a plein de choses à faire pour prendre soin de soi et beaucoup de gens autour d'eux pour leur donner des ressources.
Et quels sont du coup, pour arriver à ces objectifs, quels sont les vecteurs de votre action, les moyens que vous empruntez afin d'agir pour la santé mentale des jeunes?
Alors, on va faire beaucoup de sensibilisation, notamment au travers d'actions de proximité. On va se rendre au contact des étudiants sur les grands lieux d'études, les universités, les écoles. On va aller à la rencontre des étudiants pour leur donner les ressources, notamment notre ligne d'écoute. C'est un peu le projet principal de Nightline. On a une ligne d'écoute qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30 du matin, qui est à disposition de tous les étudiants. Aussi les étudiants internationaux d'ailleurs, parce que c'est aussi une population à risque. C'est compliqué de se retrouver dans un nouveau pays, parfois où on connaît personne et où les gens ne parlent pas notre langue natale.
C'est-à-dire que du coup, vous proposez la ligne d'écoute en plusieurs langues, c'est bien ça?
C'est ça, on a une ligne francophone et anglophone. La ligne francophone est ouverte tous les soirs. La ligne anglophone est ouverte du jeudi au lundi sur les mêmes horaires, 21h, 2h30 du matin. Et donc voilà, on va vouloir se rendre au contact des étudiants. On va aussi passer beaucoup par les réseaux sociaux. Notre site Instagram déploie pas mal de nos ressources, fait pas mal de publicité, si on peut dire, sur ce qu'on peut promouvoir. Mmh. Et aussi sur notre site internet nightline.fr, où il va y avoir beaucoup d'informations sur la santé mentale et sur les autres ressources qu'on a pu mettre en place à disposition des étudiants.
On peut dire que vous avez un peu adapté les outils que vous utilisez au public qui est aussi assez jeune, donc c'est beaucoup d'outils numériques, etc.
Oui, c'est ça. On a vraiment voulu toucher notre population en passant par des moyens de communication actuels et on est sur tous les réseaux, je pense, actuellement, sauf Twitter. On a quitté Twitter récemment. Mais on se
par rapport à Elon Musk.
Oui, c'est ça, par rapport à toutes les problématiques qu'il y avait autour de ce réseau et des personnes qui peuvent le gérer, donc... Vous ne pourrez plus nous retrouver sur Twitter, mais on est toujours sur Insta, Facebook, TikTok. Et
okay, sous le nom de Nightline, du coup.
Nightline.France, oui, c'est ça.
Et donc, si je comprends bien, si je ne me sens pas bien, je peux appeler la ligne d'écoute Nightline. Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'il faut que je sois particulièrement mal, que j'ai déjà été en thérapie ou pas spécialement?
Pas du tout, c'est vraiment ouvert à tous les étudiants. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait passer comme message quand on va à la rencontre des étudiants. C'est même si ça, que ça aille bien ou mal, c'est, en fait, c'est un espace de parole où on veut mettre en avant le principe d'être de pair à pair, dire que on est en train de vivre les mêmes expériences, on peut relate sur certains aspects de notre vie et on est là pour parler de tout. Parfois c'est compliqué de s'adresser à ses proches, que ce soit à ses amis ou sa famille. C'est parfois compliqué aussi de raconter sa journée à quelqu'un si personne n'est dispo et on est vraiment là pour ça en fait. Faut pas forcément être au fond du trou pour nous appeler. C'est voilà, un espace de discussion, d'accueil, de bienveillance. On est là pour écouter toute personne qui a besoin d'être écoutée et pour aussi aiguiller et orienter ces personnes vers un accompagnement plus profond si on a besoin.
Ok, et si jamais je suis pas super à l'aise pour parler ou que par exemple chez moi il y a du monde et que j'ai pas forcément envie qu'on entende, est-ce que vous avez des alternatives?
Oui, on a aussi le chat en ligne, c'est le même principe que l'appel. Il faut aller sur le site de Nightline, à l'endroit où il y a le numéro de la ligne d'écoute. Et si vous défilez un petit peu la page, vous verrez chat en ligne et vous serez directement mis en contact avec un ou une de nos bénévoles.
Ok. L'association Nightline publie chaque année un rapport. Et dans ce cadre, quel bilan vous faites de l'état de la santé mentale des jeunes en France et en Europe?
Alors, on peut voir que par rapport aux rapports et aux études qu'il y a pu avoir ces dernières années, notamment depuis le Covid, il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes. Il y a quand même un jeune Français sur cinq qui présente des symptômes de dépression. Donc, c'est quand même des chiffres assez conséquents. Aussi, il va y avoir... Enfin, pardon, la question, j'ai oublié.
C'est le bilan que vous faites sur l'état de la santé mentale des jeunes en France comme en Europe.
Ouais, et donc voilà, on voit une dégradation à ce niveau-là. Les chiffres le montrent, aussi on le voit quand on va au contact des étudiants de toute manière. Et oui, c'est là que je voulais en venir. La pandémie, elle a quand même mis en avant énormément de choses au niveau de la santé mentale. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés isolés dans leur lieu de vie, qui se sont retrouvés un peu à l'écart du système de l'université. Et ça a mis sur la table vraiment toutes ces problématiques qui étaient autour des étudiants et ça les a accentués. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça ne va pas en s'améliorant, mais que justement, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour que ça s'améliore.
Et quelles causes vous identifiez, par exemple, sur les lignes d'écoute, quelles sont les problématiques sur lesquelles on vous sollicite le plus souvent ?
Alors, les problématiques les plus souvent abordées, ça va être le rapport aux autres. Donc, les relations familiales, amicales, les difficultés à s'inclure dans son milieu d'études, dans sa famille, et le rapport à soi. Donc, l'estime de soi, l'image du corps aussi, beaucoup. La sexualité, ça va être les deux problématiques qui sont le plus souvent abordées en appel. Ça va représenter un appel sur trois pour les relations aux autres et un appel sur cinq pour les relations à soi.
Quand vous dites relations aux autres, vous faites référence donc à toute cette problématique de l'isolement ?
Oui, l'isolement beaucoup et le fait que parfois il est difficile pour les étudiants de s'inclure dans le système universitaire et scolaire. Ça va être souvent des étudiants qui vont avoir du mal à trouver un point d'accroche en fait, là où ils sont, qui vont avoir du mal à sociabiliser et à trouver du soutien là où ils font leurs études. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de leur proposer.
Ok. La santé mentale, vous le disiez plus tôt, elle a été érigée en grande cause nationale de 2025. Mais est-ce que les réponses politiques aux enjeux de santé mentale chez les jeunes vous semblent satisfaisantes ou suffisantes ?
Pour l'instant, on va dire que c'est encore le début de l'année, qu'ils ont encore du chemin à faire. Mais on a quand même vu quelques essais. Il y a le Premier ministre qui s'est rendu dans les locaux de Nightline il y a peu. Pour voir un peu comment ça fonctionnait. Ouais, c'est pas personne dans le gouvernement, c'est sympa. Mmh. Il a voulu voir un peu qu'est-ce qu'on faisait. Donc on voit qu'ils essayent de s'y intéresser, qu'ils essayent de mettre des choses en place. Notamment, je pense au dispositif Santé Psy qui a été mis en place il y a 2 ans, je crois, ou il y a peu. Mmh. Ils l'ont amélioré encore cette année et ils l'ont renouvelé. Donc pour l'instant, disons que... On voit qu'il y a des efforts qui sont faits, on voit qu'ils essayent de s'intéresser à ce sujet qui est quand même très important et on espère surtout que ça va continuer sur cette lancée et que c'est pas parce que cette cause-là elle est définie en 2025 que ça continuera pas en 2026 et en 2027 et dans les années qui suivent.
Oui, c'est censé être un peu un combat de tous les jours et de tout temps et pas forcément se limiter à un mois ou à une année.
C'est ça. C'est bien de mettre en avant sur une période précise parce que ça permet de mettre plusieurs choses en place. Mais l'idée, ouais, ça serait que ces périodes-là où on investit beaucoup de moyens sur ces dispositifs soient qu'on continue à le faire et que ça soit mis en place sur la longue durée.
Mais vous êtes confiante pour l'instant ?
Je pense que ouais, dans l'asso, on voit qu'il y a de plus en plus de liens qui se fait avec des grandes instances, qu'on arrive à avoir des partenaires, donc que ça intéresse quand même beaucoup de gens, des plus jeunes ou des plus vieux, et qu'on est quand même sur une bonne lancée, donc on espère surtout que ça va continuer.
On va faire une petite coupure musicale, tout de suite on écoute Nunzi Mamma Mia. C'était Nunzi Mamma Mia à l'instant sur Radio Campus Paris. Nous parlons de la santé mentale des étudiants avec Laura. Et c'est à toi Lila.
La matinale de 19h.
Rebonjour Laura, rebonjour Fabien, rebonjour à tous et à toutes. Pour revenir sur les vecteurs de l'action de l'association Nightline, j'avais quelques petites questions supplémentaires. J'ai vu que vous organisiez une run pour la santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, tout à fait. Donc là, sur le mois d'avril jusqu'au 20 avril, on a mis en place la Nightline Run. Le but, c'est de promouvoir l'idée que la santé physique est en lien avec la santé mentale et de montrer l'impact que ça peut avoir aussi sur nous que de pratiquer une activité sportive. Il y a eu une Nightline Run à Lyon, d'ailleurs, c'était cette année. L'année dernière, c'était à Paris. Donc là, pour le coup, c'est en réel. Quand c'est organisé dans une ville précisément, les gens se retrouvent à un endroit.
Donc c'est collectif.
C'est ça, c'est quelque chose de collectif où on peut aller courir sur une distance définie et faire un petit parcours comme ça avec l'asso. Et sinon, on peut le faire aussi de manière digitale. On peut télécharger l'appli Kipline, K-I-P-L-I-N. Et jusqu'au 20 avril, du coup, vous pouvez télécharger cette appli. Et par rapport au nombre de kilomètres que vous marchez ou que vous faites, vous allez pouvoir récolter quelques petits points sur l'asso et récolter... Enfin, je vous laisse découvrir en vrai, mais voilà.
Ça marche. Mais donc, chacun peut adapter un peu à son niveau aussi. Il n'y a pas d'objectif... Genre 10 km, ce qui serait un peu beaucoup pour moi par exemple.
Vraiment, aucun objectif très précis à se fixer. Le but, c'est vraiment que vous dépensiez. C'est aussi un moyen de le faire avec ses amis parce qu'on peut se mettre en équipe sur l'application et aussi en vrai si vous allez courir avec des potes. Donc voilà, c'est pour se motiver tous ensemble, pratiquer un peu une activité sportive et découvrir certaines choses sur notre santé mentale que l'on ne sait pas forcément.
Super. Et pour revenir à nouveau sur ces vecteurs, vous avez mis en place aussi une fresque de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors la fresque de la santé mentale, c'est un atelier d'intelligence collective qu'on a mis en place depuis cette année, enfin depuis septembre. C'est un atelier de 3 heures durant lequel on va inviter une dizaine de participants à faire un petit bout de chemin avec nous sur qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce qui peut l'influencer et comment on peut en prendre soin. On fait beaucoup ça dans des universités, dans des écoles. On a aussi pu faire ça avec certaines missions locales. On essaie de toucher un public jeunes et étudiants, mais le dispositif a aussi été mis en place pour les adultes d'ailleurs. Il y a des formations qui sont destinées aux adultes et donc au travers de ces 3 questions, on va passer par un lot de 3 lots de cartes sur lesquelles il y aura des définitions, tout ça. Et en fait, le but, c'est de laisser les participants construire leur propre fresque. Les animateurs seront là pour guider, répondre à des questions et donner des informations. Mais le but, c'est vraiment de laisser les participants se laisser aller avec leur cheminement de pensée, leurs idées, et que tout le monde puisse échanger son point de vue sur la santé mentale. Comme je l'ai dit, c'est un sujet tellement vaste. En fait, il y a tellement de visions différentes et d'aspects différents liés à ce sujet que le but, c'est vraiment de laisser les participants échanger entre eux. On va essayer de créer un peu de débat sur certains sujets notamment et que tout le monde puisse s'écouter les uns les autres. C'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer au travers de cet atelier, c'est que chacun a sa santé mentale et que chacun a sa vision de la santé mentale et qu'il faut savoir être à l'écoute les uns des autres.
Ça peut être intimidant au début d'en parler dans le cadre d'un atelier comme ça. Est-ce que vous sentez que les personnes qui s'y impliquent arrivent à débloquer quelque chose et à en parler à des personnes qui peuvent être des inconnues ?
Ah mais vraiment, du début de l'atelier, donc au tout début jusqu'à la troisième heure, on voit tellement une évolution sur la manière dont les participants vont s'exprimer. Souvent le lot 1, tout le monde va être un peu timide, va pas oser donner son avis. Et en fait, dans le lot 2, on va pousser un petit peu les participants à débattre et à donner son avis sur les choses. Et on voit que les choses se font peu à peu, que tout le monde commence un peu à échanger ses points de vue. Et je crois qu'il n'y a pas une fresque que j'ai animée où je me suis ennuyée. En fait, c'était tellement intéressant de voir les jeunes s'intéresser à ce sujet, d'échanger leurs points de vue. J'ai eu plein de fois pendant où l'atelier où les étudiants n'avaient pas la même idée et au final ils n'étaient pas là pour se mettre d'accord les uns avec les autres mais juste pour s'écouter sur leurs différents points de vue et voilà, c'était trop intéressant de voir se libérer, de voir qu'ils parlaient de ce sujet un peu plus librement au cours de l'atelier, donc ouais, on voit que ça aide pas mal.
Et ça permet vraiment de déstigmatiser les questions de santé mentale. Je me demandais sur un autre sujet, la ligne d'écoute, comment ça se passe? Qui est-ce qu'on a à l'autre bout du fil si on appelle la ligne d'écoute? Comment ces personnes sont formées? Est-ce qu'elles le sont? Comment ça se passe?
Alors pour la ligne d'écoute, nos bénévoles sont tous des étudiants. C'est une des conditions pour devenir bénévole. Pour ça... Alors, les étapes pour devenir bénévole, d'abord, on passe par notre site. Il y a un petit formulaire à remplir avec quelques questions pour savoir où est-ce que vous êtes étudiant, où est-ce que vous vivez, pourquoi vous voulez devenir bénévole. Et à la suite de ce petit formulaire, il y aura une réponse avec un entretien pour voir si votre profil convient et si les conditions de bénévolat peuvent convenir aux étudiants. Et si cette entretien se passe bien, il y aura 3 jours de formation à la suite de ça pour se former à l'écoute active. C'est un peu le principe de la ligne d'écoute. C'est pas d'orienter ni de diriger la discussion qu'on a avec les personnes qui appellent, mais de savoir écouter en pouvant réagir aux différents sujets qui peuvent être abordés pendant l'appel. Donc les bénévoles seront bien formés et par la suite, pour leur première session d'appel, ce qui peut être un petit peu intimidant, il y aura toujours un bénévole encadrant, on va dire, qui sera là pour superviser comment se passent les sessions d'appel, s'il y a besoin de discuter après un appel peut-être un peu compliqué, pouvoir discuter avec lui ou elle. Et voilà, il y a toute une équipe de bénévoles ultra bienveillants qui sont présents dans l'asso. Il y a beaucoup de sessions de supervision qui sont mises en place aussi pour débrief un peu sur comment ça se passe pendant les appels, est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus de soutien. Et voilà.
C'était ma question, comment vous gérez parfois des appels qui peuvent être difficiles ou recevoir des appels de personnes qui ont une certaine forme de mal-être pendant la nuit, ça peut être pas toujours facile à appréhender. Est-ce que vous mettez solidairement en place des choses, vous échangez entre bénévoles?
Oui, alors il y a tout un protocole qui est détaillé pour les bénévoles quand c'est des appels à risque. Notamment pour des risques suicidaires par exemple, il y a un protocole qui est à suivre pour les bénévoles et si cet appel a été trop dur pour le bénévole qui l'a reçu, il peut aller se mettre en retrait, discuter et être accompagné. On a des psychologues présents dans l'association avec qui il va pouvoir avoir certains échanges, un soutien. Mais sinon, les bénévoles sont formés à accueillir la parole les uns des autres et donc vont pouvoir débrief aussi ensemble sur le moment T, parce que une session d'appel, ça va de 21h jusqu'à 2h30 du matin, donc ça peut être assez long, assez fatigant, et ils ont vraiment tout un encadrement assez précis pour prendre soin d'eux.
Et vous disiez plutôt que vous vous spécialisez plus dans une orientation que dans le conseil direct. Est-ce qu'en ça, vous vous distinguez par exemple de ce que propose un ou une psychologue?
Oui, vraiment, ce qu'on essaye de faire passer aussi comme message, c'est qu'on n'est pas des professionnels de santé, on n'est pas diplômés, on est des étudiants, comme ceux qui nous appellent. On est là pour s'entraider les uns les autres, avec des situations de vie peut-être similaires pour certains bénévoles qui reçoivent un appel. Donc c'est de pouvoir aussi partager ces expériences-là. Et on va pouvoir donc orienter les appelants. Comme j'ai dit, s'ils montrent l'envie de vouloir avoir un suivi plus profond, on va avoir des ressources à leur donner. Par exemple, on a un annuaire qui a été mis en place par Nightline où les étudiants peuvent référencer l'établissement d'études dans lequel ils sont. Et ça va donner plusieurs adresses de soutien psy gratuits et accessibles pour les étudiants. On va aussi pouvoir les renseigner s'ils ont besoin d'un professionnel de santé autre, On va vraiment être à l'écoute de la demande de la personne qui appelle. On va pouvoir l'orienter, mais c'est pas le bénévole qui va prendre des décisions pour la personne qui appelle. On va être à l'écoute de ses besoins en essayant d'y répondre au maximum sans pour autant diriger la discussion.
Ok. Et petite question pour la fin peut-être. En termes de réponse politique par rapport à la santé mentale aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque, selon vous, dans un monde idéal? Qu'est-ce qui serait mis en place par les pouvoirs publics pour favoriser la santé mentale chez les jeunes?
Dans un monde idéal, que tous les étudiants aient accès à un soutien psy gratuit. La précarité, c'est aussi un sujet qui touche beaucoup les étudiants. Donc, on sait que c'est assez coûteux d'avoir accès à ces soutiens-là. Et ça serait l'idéal, ça serait vraiment que tous ces étudiants et tous ces jeunes puissent être accompagnés à la manière dont ils ont besoin et dont ils ont envie. Et voilà, on espère que ça arrivera dans un futur proche.
Merci.
Merci.
Merci Laura, merci Lila, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h. Et tout de suite, Antoine nous présente le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
On commence ce Flash Info en faisant un petit détour de l'autre côté de l'Atlantique où les États-Unis continuent de sombrer dans l'ère de la post-vérité. Les universités américaines disent non à l'administration Trump et à sa croisade contre le wokisme. C'est aujourd'hui la plus ancienne université des États-Unis, Harvard, qui fait le tour des médias en disant non aux exigences de l'administration Trump. Un refus qui passe mal du côté des autorités fédérales, qui ont alors décidé de suspendre les subventions pluriannuelles à la hauteur de 2,2 milliards de dollars, équivalent à 11% du budget total de la prestigieuse université. Harvard fait donc le pari de tenir tête à la Maison Blanche et à sa politique de démantèlement et définancement des instituts scientifiques. Son président, Alan Garber, a assuré aux étudiants et enseignants que l'institution n'abandonneront pas son indépendance. Un premier bras de fer entre le monde scientifique et celui du pouvoir. C'est donc une petite source d'espoir qui guette la soi-disant plus grande démocratie du monde, qui fait face à la mise en place de l'autoritarisme de Trump et de son administration. Retrouvons en France maintenant, François Bayrou présentait ce matin l'état des finances publiques du pays afin d'alerter et de convaincre l'opinion, tout en faisant pression sur les oppositions. Pas d'annonce concrète concernant le budget 2026, mais à 5 mois du début d'examen de la loi des finances, le Premier ministre prépare le terrain pour éviter toute fausse route et une censure lancée par l'opposition. Plusieurs attaques de prison en France ont été constatées dans la nuit de lundi soir. Ça s'est passé à Nanterre, Toulon, Marseille ou encore Villepinte. Ces attaques semblent avoir été coordonnées sans être pour autant revendiquées. Autre actu à la une de ce mardi 15 avril, je vous annonce une nouvelle recrue au club des bracelets électroniques. Pierre Palmade fait son entrée dans le club après la décision de la cour d'appel de Bordeaux. L'humoriste qui avait été condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes pour avoir causé un accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de drogue va pouvoir sortir de prison et voir sa peine aménagée sous forme de bracelet électronique. Enfin, on finit ce Flash Info par un peu de sport avec une soirée Ligue des Champions pour les footeux et pour les basketteurs, soirée Euroleague. Le Paris Saint-Germain se déplace ce soir en Angleterre pour affronter Aston Villa pour rejoindre le dernier carré. Après une victoire 3-1 au match aller au Parc des Princes et un groupe au complet, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour rejoindre les demi-finales. C'est à suivre à partir de 21h sur Canal Plus Sport. Côté basket, le Paris Basketball se déplace à Madrid pour affronter le finaliste de l'édition précédente, le Real Madrid, dans le cadre des play-ins qui permettrait aux Parisiens de rejoindre les quarts de finale. Le Paris Basketball pourra compter sur Nadir Ifi, tout juste élu meilleur espoir de la compétition. Même horaire que le Paris Saint-Germain, ce soir à 21h.
Merci Antoine, et tout de suite, on écoute Blasé, Instant Magique.
De phénomènes.
C'était Blasé, Instant Magique sur le 91.9 Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et Nordine est avec nous et va nous parler des investissements dans les intelligences artificielles.
Bonjour à tous. Alors c'est Nordine, étudiant en philosophie et futur journaliste. Bienvenue dans cette deuxième chronique technophilo. Si tu aimes la technologie, la techno et la philo, tu es au bon endroit. Alors... aujourd'hui, analysons un événement de l'actualité technologique et critiquons-le philosophiquement. Parlons des annonces de Macron sur des investissements en développement de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez peut-être, il n'y a vraiment pas très longtemps, en février, il y a eu le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Et y ont participé plusieurs chefs d'État et dirigeants politiques, comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le vice-président américain Gigi Vance ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Mais aussi des PDG, des grandes entreprises de la Big Tech comme Sam Altman, le cofondateur de ChatGPT, et Sundar Pichai, le patron de Google. Le but de ce sommet international est d'encourager la coopération entre les différents États pour coordonner le développement des intelligences artificielles. Notre président Emmanuel Macron a profité de cet événement pour annoncer que 109 milliards d'euros allaient être investis dans les prochaines années pour développer la France dans le domaine de l'IA. Petite parenthèse, ces investissements proviendront en grande partie des Émirats arabes et des États-Unis. Cette décision d'intensifier le développement de l'IA dans l'Hexagone est une réponse à l'annonce de Trump qui, en janvier, avait déclaré que les États-Unis prévoyaient pas moins de 500 milliards de dollars d'investissement dans cette technologie. Macron veut que la France soit à la hauteur et ne prenne pas de retard dans cette course au développement. Il a aussi promis un développement du nombre de chercheurs en IA qui passerait de 40 000 à 100 000 chercheurs d'ici la fin de l'année. Le but est clair, la France doit rivaliser et développer l'IA dans tous les domaines, médecine, cybersécurité et surtout dans des secteurs professionnels clés comme l'informatique, l'ingénierie, mais aussi les métiers de l'éducation. intéressons-nous à ce dernier point et réfléchissons rapidement à l'impact de ce développement de l'IA dans le monde du travail. Commençons par un chiffre. Selon le fameux cabinet McKinsey, d'ici à 2030, 27% des tâches effectuées par les employés de tous les secteurs seront remplacées par l'IA. Ainsi, l'IA, poussée par le zèle de nos chefs d'État et patrons de Big Tech, prend une place de plus en plus importante dans le monde du travail. Les puissants outils de calcul, d'analyse et de traduction s'intègrent dans des emplois toujours plus qualifiés. Journalistes, profs, traducteurs, ingénieurs et même avocats sont désormais assistés dans leurs tâches par l'intelligence artificielle. Est-ce une bonne nouvelle? Le début d'une libération de l'homme moderne vis-à-vis de tout travail laborieux. L'IA est-elle une aide précieuse qui permettra aux employés de laisser les tâches complexes, comme la gestion de la paperasse, pour ne se concentrer que sur l'essentiel? Cela va-t-il apporter plus de sens au travail? Voici la réponse de Bernard Stiegler, philosophe français qui a réfléchi aux impacts des nouvelles technologies numériques sur l'homme moderne. En parlant de ce développement de l'IA dans le travail, il dit « Cette société industrielle a créé ce que j'appelle la prolétarisation, qui signifie en réalité la perte de savoir. Le prolétaire est celui qui travaille sur une machine, sans savoir ce qu'il produit, sans savoir comment marche la machine et qui n'a plus de savoir, qui n'est plus que le serviteur d'une machine qui a transformé le savoir en automatisme. » Ainsi, pour Stiegler, l'intégration toujours plus poussée de l'IA dans les emplois qualifiés n'est pas un signe de progrès ni de libération pour l'employé moderne, mais au contraire le début d'une régression. En effet, selon le philosophe, l'IA, cela signifie surtout l'automatisation de nos tâches. Automatiser un diagnostic, automatiser une analyse, automatiser l'écriture d'un rapport. Que se passe-t-il? Des tâches complexes, qui nécessitaient avant de réfléchir, vont désormais être effectuées plus ou moins par l'IA. Par conséquent, alors qu'un avocat pouvait par exemple faire sa plaidoirie par lui-même, c'est maintenant ChatGPT qui lui proposera de préparer sa défense. Ce que l'on peut donc dire pour conclure, c'est que grâce à l'IA, l'employé qualifié ne sera pas libéré du travail. Au contraire, il sera déqualifié, il perdra l'usage de ses compétences intellectuelles et créatives pour devenir le servant de la machine qui était pourtant censé le délivrer.
Merci Nordine pour cette rétrospective sur l'IA. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Aujourd'hui dans le Zoom, nous recevons Kairos Bloom à l'occasion de la sortie de leur dernier single, Still There Gallica. Ils seront interviewés par Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Kairos Bloom.
Salut.
Hello.
Salut tout le monde.
Alors salut Kairos Bloom, comment vous allez?
Très bien. Très
écoute,
bien.
Au top, on est très content d'être là pour se faire interviewer par toi. Donc,
ok, super.
Au top.
Donc on retrouve Jean, le guitariste, Emmanuel le chanteur, Théo le bassiste et Ilan le batteur. Donc vous allez bientôt nouvellement sortir votre EP au mois de juin, le 6 juin. Et donc en ce moment, dans quel état d'esprit vous vous sentez? Oui.
Eh bien écoute, on est très content là, on est actuellement en pleine promotion, on va dire, de cette EP parce qu'on a sorti déjà deux singles de ce nouvel EP. On a voulu sortir des singles un peu en cascade, comme on dit, pour montrer ce qu'on sait faire. Donc là, on est très enthousiaste. On n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir les montrer aux gens, qu'ils puissent les écouter, les partager. Donc c'est une période qui est vraiment très enthousiasmante pour nous parce que c'est le deuxième projet ensemble et on n'a qu'une seule envie, c'est de le montrer au plus grand nombre quoi, autour de nous. Donc très, très enthousiasmant en ce moment, c'est cool quoi.
Et concrètement, comme vous êtes quatre, comment vous organisez dans le studio, comment vous travaillez ensemble? C'est qui a les idées? C'est qui fait quoi en général?
En général, la façon dont on bosse, c'est que c'est Jean ou moi, Manu, qui avons une première idée, une première maquette. Ça peut se passer autrement, mais en général, on part d'une maquette. Et après, une fois qu'on se retrouve tous les quatre en studio, on réfléchit à la structure, on se fait les uns les autres des retours, on peaufine chacun un peu nos parties. Et à partir de là, on commence à avoir vraiment le processus pour boucler le morceau. Et puis là, on a bossé aussi un peu tous ensemble et en autonomie sur la partie mix avec Ilan, notre batteur, qui était vraiment à la charge de tout ça. Donc c'était cool de pouvoir bosser aussi sur cette partie, quoi.
Ok, super. Et donc le nom de votre EP, qui s'appelle Gallica, donc en fait, qu'est-ce que ça signifie, du coup?
Alors ça, c'est plutôt pour moi, vu que c'est moi qui écris les paroles, et je sens qu'ils sont pas à l'aise à côté, là. Gallica, en gros, c'est une sorte de personnification d'Internet, son côté un peu vampirisant, le fait que on doit à la fois un peu, nous, en tant qu'artistes, se vendre à toutes les trends possibles, tu vois, et que ça implique. Et après, il y a un truc aussi un peu plus, on va dire, mystique, mais l'idée, c'était de faire une sorte de personnification d'Internet, et à partir de ça, pouvoir évoquer plein de choses, des choses, on va dire, un peu philo, du genre la société moderne, et puis des choses beaucoup plus concrètes, parce qu'Internet, c'est juste ce qui jonche notre quotidien, quoi. Et donc, j'aimais bien qu'il y ait un peu ce truc central qui nous permet de parler de plein de choses à partir de cette idée-là. Et puis, j'aime bien aussi qu'on sache pas exactement ce que ça veut dire, et qu'on puisse y mettre un peu ce qu'on veut, quoi.
Donc c'est mystérieux, quoi.
Bah ouais. pour un peu tout le monde, visiblement. Même pour nous, quoi.
Même pour les membres du groupe, c'est ça qui est fort.
Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai vu sur la pochette des singles, comme Gallica, Stilder ou Spaceship, bah, en fait, c'est un peu étrange. C'est quoi, en fait? C'est la personne, c'est Gallica? Non?
Bah, ça peut être Gallica, ça peut être d'autres choses aussi, mais en gros, ça fait partie aussi d'une espèce de... On a pensé une sorte de mythologie un peu autour de l'EP, on a pas mal pensé à la direction artistique et créé un peu des sortes d'histoires dans cet univers-là de Gallica. Et on voulait s'inspirer notamment d'un truc un peu codex, avec des vieilles encyclopédies, des écritures un peu fictives, voilà, ce genre de choses, et donc ce genre de figures qu'on voit sur les pochettes, ça correspond plus ou moins à ça, quoi. Et après, encore une fois, on y voit ce qu'on y veut, quoi, ce qu'on veut y voir.
Et ce qui est bien sur cette EP, c'est qu'on a vraiment voulu réfléchir à une cohérence de on va dire, une nouvelle direction artistique, oui, qui soit cohérente, contrairement peut-être à ce qui était le cas sur le premier EP. Là, il y avait vraiment cette volonté d'amener un projet de vraiment de A à Z, et de montrer aussi cette nouvelle direction artistique avec Gallica. Et justement, ce qui est, je trouve très intéressant avec cette recherche de direction artistique, c'est que vraiment tu te rends compte que tu peux aller vraiment où tu veux, tu peux décider vraiment de montrer ce que tu veux absolument. Et donc voilà, donc je trouve que c'est bien, ça montre aussi qu'on progresse, nous, en tant que groupe, parce qu'on est quand même assez jeunes. Mmh. Et donc voilà, petit à petit, il y a plein d'éléments qui se rajoutent à qui on est, nous, Kairos Bloom. Et je pense que ça apporte aussi, déjà à nous, mais aussi aux gens en général, comme ça ils se repèrent aussi par rapport à ce qu'on peut faire. Comme toi, tu as vu les pochettes où tu te dis, ouais, ah oui, mais ça, je reconnais, c'est peut-être Gallica, enfin c'est peut-être Kairos Bloom, parce que voilà, c'est intriguant et ça marque les gens aussi, quoi.
Donc en fait, c'est totalement une nouvelle exploration musicale, c'est un nouveau style, quoi, en quelque sorte.
Bah en fait, là, quand on a fait le premier EP, on l'a fait très vite après s'être rencontrés, il y avait un peu cette c'était un peu une urgence de la scène, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a composé des choses qui étaient destinées à être jouées pour du public. Donc, avec vraiment, on a pris des références qui étaient les nôtres, qui étaient des Strokes, aux Arctic Monkeys, aux Libertines, pour pouvoir les proposer à la scène. Et on est allé vite pour enregistrer ça. Et là, on a pris un peu plus le temps de discuter entre nous pour proposer un objet un peu plus cohérent et pour débloquer, en tout cas pour proposer un imaginaire assez cohérent, en tout cas qui nous ressemble, et qui montre qu'on a essayé de réfléchir et de construire quelque chose de complet, en fait.
Et bah justement, dans le dernier single que vous avez sorti, donc Still There Gallica, en fait, vous voulez transmettre quoi à travers ce morceau-là?
Bah c'est le seul morceau qui intègre Gallica dans le titre et qui est un peu... évoque un peu plus directement le truc. Et en gros, on va dire que c'est l'histoire. Je parle toujours d'un narrateur, parce que c'est jamais vraiment moi qui parle dans les morceaux. J'aime bien toujours que ce soit un peu, même si c'est à la première personne, plutôt un personnage qui est figuré dans le truc. Mais en gros, c'est plutôt quelqu'un qui est un peu, ce que je te disais tout à l'heure, un peu en dilemme sur comment il doit gérer le fait de, à la fois, vouloir montrer sa musique aux gens, et à la fois tout ce que ça implique pour lui, devoir se vendre, faire des concessions, et puis aussi toute la part de doute qu'il y a dans le fait de créer de la musique, parce que c'est, mine de rien, un exercice un peu solitaire de créer, tu vois. On est beaucoup en studio, nous quatre, à avoir nos idées, et on n'est jamais trop sûr de comment ça va être reçu, compris. Donc c'était un peu ça.
Ok, je vois. Donc, celui que vous avez sorti, le premier single, donc Spaceship,
ouais,
est-ce que c'est la soucoupe volante de Gallica?
En vrai, ouais, en quelque sorte. C'est un peu ça. Bah, Gallica, c'est pas celui qui est à bord du truc, c'est plutôt l'univers tout autour. Okay. Et la soucoupe volante, ouais, en gros, qui. Bah, en fait, moi, j'aimais bien le côté un peu à double sens du truc spaceship, parce qu'à la fois, c'est un truc qui te permet de voyager, découvrir plein de choses, et ça peut te donner un peu ce côté exploratoire qui te donne envie d'aller. Creuser plein d'univers différents potentiellement, et en même temps c'est aussi une cabine dans laquelle t'es enfermé et tu te protèges du monde extérieur. Et ce truc un peu double, un peu incertain, j'aimais bien cette métaphore là.
Oui, je trouve que c'est intéressant parce que dans les paroles vous dites clairement je vais trouver un endroit où je peux reposer en paix, enfin, ouais. C'est ça
c'est plutôt c'est un peu ça, mais c'est plutôt le narrateur qui espère ou qui se dit qu'il en a la possibilité avec ce fameux vaisseau spatial, mais c'est plutôt une quête, donc c'est pas atteint, en tout cas dans le morceau, on sait pas s'il atteint son but, quoi. Il est en quête.
C'est toujours un mystère, quoi.
Ouais, voilà. Peut-être qu'il y a la solution à la fin de l'EP, on sait pas, mais ça je peux pas le dire parce que l'EP est pas sorti.
Ouais, bah en soi, c'est chacun a le droit d'imaginer ce qu'il veut, donc c'est libre cours à l'imagination.
Ouais, c'est ça. Bah, moi, je trouve ça mieux dans un univers. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, vous, mais que à la fois ce soit un peu carré, un peu restreint par un imaginaire précis où on voit l'intention qu'a voulu mettre l'artiste. Et en même temps, j'aime bien aussi que chacun puisse y mettre un peu ce qu'il a envie de mettre et que ce soit pas non plus un truc hyper directif, tu vois, et que chacun puisse y voir. Tu vois, toi, tu vois Egalica dans les pochettes, bah, ça me va, quoi.
Ouais, c'est super intéressant. Mais en fait, ce que j'aime bien aussi dans votre musique, c'est que... Est-ce que c'est un côté aussi poétique ou romantique ou...
Poétique, tu disais, ou politique?
Oui. Non, poétique, pas politique. Poétique, ouais. Ah oui, est-ce que c'est politique aussi?
Politique, je crois que je suis un peu le seul mec vraiment politisé du groupe, donc j'essaie de pas trop leur imposer ce truc-là, mais après, c'est toujours un peu malgré soi politique. Mais ouais, sur la partie poétique, oui, c'est sûr qu'il y a cette part-là. Après, je trouve que c'est dur de se décréter poète ou d'être vraiment dans de la poésie, tu vois, c'est dur d'affirmer ce truc-là. Je trouve que c'est toujours un peu orgueilleux de dire que tu fais un truc poétique, quoi. Mais oui, moi, je renie pas ce mot-là, quoi, en tout cas.
Tant que les autres le disent, nous, ça nous va.
Ouais, voilà.
Parfait. Ça. Mais vous vous décrirez comment, du coup?
Comment on se décrit?
Ouais.
Tellement on sort.
Est-ce que Ilan, on est actuellement un groupe qui part des Strokes et qui va vers Radiohead. je dis ça parce que Radiohead, c'est un peu la ref musicale que j'ai un peu essayé de forcer quand j'étais un peu au mix, ouais. Et tout.
Mm-hmm.
Et bref, ça nous faisait bien rire de dire que j'allais imposer une musique à la Radiohead aux gars. Mais ouais, à la base on est des Strokes plutôt. Et on est un peu entre ces deux univers là, ouais. Et je pense qu'on essaie de globalement d'être un peu moins d'être un peu plus mystérieux, quoi, dans la musique, en vrai.
C'est ça.
De poser plus de nappes.
Il y a de la brume. Exactement, et ouais. Je pense que il y a aussi pas mal de mélancolie. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de la nostalgie, même un peu dans les mélodies qu'on va trouver. Il y a quelque chose d'un peu triste qu'on aime bien à chaque fois mettre en avant. Et parce que je pense que c'est ce qui touche aussi forcément un peu les gens, et nous c'est ce qui nous touche nous, donc je pense qu'on va encore plus dans cette direction là donc voilà, okay. Mélancolie et puis mixé avec un peu quand même d'énergie rock à la Strokes, quoi, comme on aime bien,
ouais.
Mais donc voilà, quand même un mix entre tout ça.
Ouais, c'est un joli mix en tout cas. Moi j'aime bien écouter vos chansons.
Merci, ça fait plaisir, c'est gentil.
Et en tout cas, justement, qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Est-ce que vous avez d'autres singles à venir? Ou des concerts, une tournée prochainement?
Alors oui, déjà on a une release party en gros qui est prévue le 25 juin prochain pour cette EP, donc vous êtes tous conviés avec plaisir.
Super.
Ça sera au club, c'est un bar club. En gros qui est très sympa dans le centre de Paris à côté de Châtelet. Donc et puis d'autres singles qui sortiront là courant du mois. Il y en a deux autres qui sortent et un qui aura un clip aussi.
Okay.
Donc voilà, vous verrez tout ça, mais le 25 juin, notez cette date parce que ça sera vraiment cool, quoi.
Ok, bah merci d'être venu et surtout n'hésitez pas à les écouter sur Spotify, Apple Music et à aller voir leurs concerts.
Merci.
Merci. Ouais.
Merci au groupe Kairos Bloom, merci Céline, et on écoute leur titre Still There Gallica.
Bring out the bass. I wasn't sure about this kind of aims. Was it over? I wasn't sure about the elements.
C'était Kairos Bloom, Still There Gallica.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et on termine cette matinale avec les sorties de la semaine. Donc on commence par la fête de la Bretagne, la fameuse Gwelbrecht qui annonce son grand retour dans le 14e arrondissement de Paris. Du 16 au 25 mai 2025, c'est un programme riche en animation qui vous attend, pour la plupart en accès libre, hein, histoire de vous plonger dans la très riche culture bretonne. Pour cette édition 2025 de la fête de la Bretagne, la mission bretonne met une fois encore les petits plats dans les grands afin de combler les attentes et les envies des parisiennes et des parisiens. Fest-noz, danse, contes, dégustation ou encore cinéma et musique vous attendent. On n'oublie pas la fameuse Crêpe-noz programmée le 21 mai de 17h à 23h. Pendant une soirée entière, la rue de Montparnasse devient piétonne, permettant aux crêperies de sortir table et fûts de cidre en terrasse. Retrouvez à partir de 19h le Bagdad Paris pour une déambulation festive. Sur le boulevard Edgar Quinet, les curieux pourront profiter d'une initiation à la danse ou encore assister à une démonstration de pèse-base. C'est un sport de combat utilisant le bâton traditionnel des paysans bretons. Puis à 20h, place au bal folk et au fest-noz, histoire de se dégourdir les pattes. C'est du 16 mai au 25 mai 2025. C'est au 22 rue de l'Ambre, 75 014 Paris, pardon. Et pour plus d'informations, c'est missionbretonne.bzz. Et puis Argenteuil s'apprête à briller de mille feux avec les Nuits des Lumières. Du 20 avril au 11 mai 2025, la basilique Saint-Denis se transforme chaque soir, sauf le samedi, en un spectacle de vidéomapping magique. Un show lumineux gratuit où art numérique, patinoire et innovation technologique s'unissent pour une expérience immersive inédite. Du 20 avril au 11 mai 2025, de 21h45 à 23h30, le show Les Nuits des Lumières transforme chaque soir la façade néo-romane de ce monument historique en un écran géant
géant vibrant d'animation lumineuse. C'est génial ce genre de choses. Ce spectacle de vidéomapping organisé dans le cadre de l'ostension de la Sainte Unique, précieuse relique conservée dans l'église, promet une immersion visuelle inédite. C'est un spectacle lumineux qui est gratuit à savourer sous les étoiles, illuminé évidemment. C'est du 20 avril au 11 mai 2025, de 21h45 à 23h30, et c'est à la Basilique Saint-Denis d'Argenteuil, place Jean Heuriot à Argenteuil, et c'est bien entendu gratuit. Et puis on va terminer, c'est l'heure de terminer, la matinale de 19h se termine. Merci à Lila et Laura, merci à Antoine pour son flash info, merci à Nordine, merci à Céline ainsi que Kay Rosebloom pour leur venue dans la matinale. Restez avec nous, tout de suite c'est... je sais pas quoi. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle matinale. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM.